Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission de Ça roule radio. Une émission un peu spéciale aujourd'hui parce que je l'animerai toute seule. C'est-à-dire que mon ami Luc, enfin en sens c'est Marc si vous ne l'aviez pas reconnu. Mon ami Luc, malheureusement, est retenu. Ceux qui suivent l'histoire de Luc depuis quelques temps, depuis quelques mois, savent que son fils a été malade l'année dernière. Tout s'était très bien déroulé jusqu'à maintenant, mais malheureusement, Fiston a fait une petite rechute cette semaine, ce qui a demandé à Luc pas mal de travail. Vous aurez compris qu'il y a pas mal d'inquiétudes autres que cette émission-là, qu'il adore en passant, mais bien sûr, il y a d'autres préoccupations. Alors évidemment, on pardonne à Luc, qui quand même va être mon collaborateur pour cette émission-là parce que c'est lui qui va faire le montage et la mise en ligne parce que mes capacités techniques sont un peu limitées de ce côté-là. Donc, c'est Luc qui va se charger de la mise en ligne. Alors, je le remercie. Évidemment, vous aurez compris que sans lui, cette émission de Ça roule radio de cette semaine ne pourrait pas exister. Bref, je suis très content d'être avec vous cette semaine. Une émission qui va être quand même remplie d'actualité, bien entendu, parce que c'est ce qu'on essaie de faire. Je vais aussi vous parler de deux essais particuliers. Un premier, celui du Subaru Forester, un véhicule familial qui est de plus en plus populaire et qui a été remanié pour 2019. Et je vais aussi vous parler du Toyota Tacoma TRD Pro, une camionnette que j'ai conduite il y a quelques jours. Si vous avez été sur ma page Facebook, vous avez peut-être eu l'occasion de me voir cheveux au vent en train d'essayer cette voiture-là un peu en route. Donc, je vais être en mesure de vous en parler aussi. Bref, donc, on va parler de ça. On va aussi parler d'actualité. C'est d'ailleurs par ça qu'on va commencer cette semaine, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui s'en viennent au cours des prochains jours. Vous le savez, c'est le dernier salon de l'année qui arrive dans quelques jours, le salon de l'auto de New York, où j'aurai le plaisir d'aller au cours des prochains jours. Je ne sais pas si on va être en mesure d'enregistrer l'émission à proprement parler la semaine prochaine, parce que justement, je vais être un peu coincé au salon. Luc, lui, travaille malheureusement, donc ne pourra pas nous accompagner à ce moment-là. Mais quand même, on pourra donc essayer d'enregistrer, mais ça se peut que la semaine prochaine, malheureusement, vendredi saint, vous soyez aux prises avec une reprise de l'émission. Vous comprendrez qu'effectivement, on n'est pas toujours disponible pour ça, malheureusement, que surtout quand je suis en voyage comme ça, c'est un peu plus compliqué. Malgré tout, le salon de New York, c'est mon salon préféré de l'année. J'adore ce salon-là. J'adore la ville de New York, il faut le dire. Un endroit où je me rends avec beaucoup de plaisir. Un endroit où ma femme se rend avec un peu trop de plaisir aussi, là, parce qu'elle a découvert qu'il y avait quelques boutiques qui malheureusement étaient un peu trop souvent ouvertes à mon goût. Donc, on s'y rend en voiture. Ça fait aussi partie de l'aventure que de se rendre là-bas en voiture. C'est un parcours qui prend à peu près 6 heures à partir de Montréal. Ça se fait très bien. On passe dans les White Mountains, entre autres. On va se promener vraiment dans les adirondacks. C'est vraiment magnifique. Il y a de beaux endroits, surtout à cette période-ci de l'année où, bon, c'est le dégel. Ce qui arrive des montagnes est en train de fondre. On a donc droit à toutes sortes de cascades, de chutes d'eau un peu partout. Les paysages sont super beaux. C'est vraiment magnifique. Et je vous avoue qu'on s'arrête. On fait un petit pèlerinage. Ça n'a rien à voir avec l'automobile, je vous le dis. On fait un petit pèlerinage dans un endroit qui s'appelle PJ's Barbecue SA. C'est à Saratoga Spring. C'est un restaurant qui a l'air de rien. On se sert debout au comptoir et on va manger. Il y a de la musique mi-country, mi-rock des années 80. Ça grossit d'année en année cependant. Là, il y a des terrasses extérieures et tout. Nous, quand on y va, c'est pour le lunch. Et ils servent probablement le meilleur porc effiloché que vous pouvez manger. Il est excellent. Il est fait sur place. Il est super beau. C'est absolument pas santé. C'est vraiment pas bon pour ma ligne. Pas bon pour ma diète. C'est servi avec des frites en spirale. C'est servi avec une sauce fromage. C'est servi avec des beans, des haricots. Avec une espèce de pain de maïs aussi. C'est gigantesque. Normalement, on prend une portion pour deux et c'est amplement suffisant. Mais c'est un parcours qui vaut la peine. C'est à Saratoga Springs. Ça s'appelle PJ Barbecue SA. C'est vraiment là, facile à trouver. On ne peut pas s'empêcher d'y aller. Et habituellement, j'amène aussi mon fils avec moi. Mais là, cette année, mon fils, bon, il vieillit, il est rendu à l'université. Il ne pourra pas être là. C'est lui qui va garder la maison et les chiens, d'ailleurs. Malheureusement, lui, il dit, ben là, papa, tu m'en ramèneras. C'est clair qu'on ne se mettra pas à importer du porc effiloché. Mais c'est vraiment, vraiment génial. Ceci étant dit, C'est évidemment pour le salon de l'auto qu'on va là-bas, pas strictement pour manger. Donc, il y aura quand même quelques nouveautés intéressantes là-bas, à commencer par celle de Toyota. Toyota qui va nous présenter deux véhicules. D'abord, la Yaris, qu'on a déjà vu de toute façon, qui est faite en collaboration avec Mazda et qu'on a déjà vu en masse. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le Toyota Highlander. C'est un véhicule qui est quand même très populaire, qui est dans un créneau extrêmement populaire. On ne peut pas savoir exactement de quoi il en est question puisqu'il va être dévoilé la semaine prochaine. Mais chez Toyota, on a quand même fait ce qu'on appelle des teasers. Donc, on a fait une espèce de présentation 3D qui montre un profil flou du nouveau Highlander. On ne sait pas exactement de quoi il aura l'air. Ça donne quand même une bonne idée. On espère, on pense en fait qu'il va évidemment profiter de la fameuse plateforme là, TNGA, la Toyota New Global Architecture, qui sert de base à peu près tous les nouveaux véhicules chez Toyota. Bien sûr, il devrait y avoir le V6 3.5, le moteur que l'on connaît bien chez Toyota. Mais ce qu'on a hâte de voir, en fait, c'est ce qui va se passer du côté des hybrides ou des hybrides branchables. Parce qu'on sait que Toyota est extrêmement fort dans ce domaine-là. Donc, on devrait nous présenter une déclinaison hybride et hybride branchable. Encore une fois, on verra ce que ça va donner. Mais pour le moment, ça fait partie des choses les plus anticipées là-bas. Du côté de chez Nissan, on ne sait pas trop ce qu'ils vont nous présenter, étonnamment, parce que c'est d'abord pour au niveau de la, je vous dirais, de l'anniversaire de Nissan Motorsports, de toute la partie sport motorisé de Nissan. Donc, c'est ça qu'on va nous présenter surtout là-bas. Par contre, bon, on pourrait nous présenter aussi d'autres véhicules. On ne sait pas trop ce qu'il va y avoir vraiment là-bas. Donc, on verra ce que ça va donner du côté de chez Nissan. Infiniti va nous présenter la QS Inspiration, qui est, je dirais, la version de l'avenir d'Infiniti, puisque c'est celle qui va être, je dirais, le début du nouveau design de ce que sera, seront les nouvelles Infiniti. Donc, on verra ce que ça va donner. Je vous parlais de Nissan, j'ai oublié de vous dire que probablement, en tout cas, on pense qu'il y aura une édition spéciale de la Nissan GT-R et de la Nissan 370Z que l'on va présenter là-bas, mais on verra ce que ça va donner. Il y a quand même des véhicules aussi qui vont être quand même extrêmement intéressants. Je pense à la Hyundai Venue. Hyundai Venue, c'est un petit véhicule qui devrait s'inscrire un peu en dessous du Hyundai Kona en termes de véhicules utilitaires sport. On a vu des dessins qui sont sortis un peu partout cette semaine. On n'en sait pas plus encore une fois. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais on sait que Hyundai essaie d'occuper tous les créneaux dans cette catégorie-là. Et donc, c'est vraiment là que l'on va être en mesure de le voir le mieux. C'est la Hyundai Venue, je vous le répète, un petit VUS. En fait, qui a l'air un peu d'une Hyundai Accent en talon haut. Là. C'est un peu la perception qu'on en a. Donc, on verra ce que ça va donner. Et bien sûr, Hyundai va profiter de l'occasion aussi pour dévoiler sa Sonata. Sonata qu'on a vu abondamment, qui a été dévoilée partout. Qui grandit un peu, 25 mm plus large, 45 mm plus longue. C'est surtout l'éclairage avant, la partie avant de l'éclairage que vous devez regarder. Et la partie qui a l'air presque d'Audi en avant, alors ça, c'est vraiment joli. On a hâte de voir ce qu'elle donne dans la vraie vie parce qu'on sait, entre les photos et la réalité, des fois, il y a un écart. Mais ça devrait être fort intéressant. Parmi les autres nouveautés, une dont je ne peux pas beaucoup vous parler, c'est la Cadillac CT5. Pourquoi je ne peux pas beaucoup vous en parler? Parce que je suis allé cette semaine à Détroit où on nous a fait une présentation technique en profondeur sur la Cadillac CT5. Mais il y a un embargo jusqu'à mardi prochain, 9h le matin, donc heure du dévoilement de la voiture, où on ne peut pas en dire plus. Donc, on sait qu'il y a quand même certains éléments qui sont sortis publiquement. Donc, on peut le dire là, qu'il y a un 3 litres V6 et un 2 litres turbo. Mais pour le reste, on va malheureusement être obligé d'attendre donc quelques jours encore avant d'en savoir davantage. Dans les autres nouveautés qui s'en viennent à New York, la Jaguar XE, c'est un peu particulier parce qu'on la dévoile à New York, mais cette semaine, il y a déjà des journalistes qui sont en France en train de l'essayer. Le Lincoln Corsair, qui est en fait la version du MKC, version Lincoln, encore une fois, c'est pas une grande surprise parce qu'on nous a présenté il y a pas tellement longtemps le nouveau Ford Escape, donc il fallait s'attendre à ce que le Lincoln MKC subisse les mêmes changements, c'est le cas de ce Lincoln Corsair. Il y a Mercedes-Benz qui va présenter la nouvelle Mercedes-Benz GLS. Écoutez, c'est un grand, grand, grand format de VUS qui est basé sur la classe S. Donc, j'avais essayé l'ancienne génération. C'est quand même spectaculaire. Donc, on devrait voir quelque chose d'assez incroyable là aussi. Porsche qui va présenter la 911 Speedster. Bref, il y a pas mal de nouveautés. Et la Subaru Outback. Encore une fois, on attend... on savait que avec la nouvelle Legacy qu'on avait présentée, là, c'était une question de temps avant qu'on arrive avec ça. Donc, comme vous le voyez, pas mal de nouveautés à New York. On verra ce que la réalité va nous proposer. Mais pour le moment, c'est ça. C'est particulier parce qu'il y a beaucoup moins de dévoilements cette année qu'il n'y en a d'habitude à New York. En fait, en général, New York, ça dure... Bon, évidemment, c'est 2 jours de presse. Mais là, la deuxième journée, c'est extrêmement tranquille. Ce sont essentiellement des dévoilements d'équipementiers et pas beaucoup de nouvelles voitures. Je pense que ça sera... à surveiller, mais peut-être que les grandes nouveautés vont survenir vraiment plus en début de semaine, c'est-à-dire mercredi. C'est là donc qu'on aura plus de détails. Alors, comme vous le savez, la semaine prochaine, c'est Pâques. Il y a donc d'autres événements qui se déroulent. C'est toujours l'occasion que prend Jeep, entre autres, pour présenter ils participent en fait à ce qu'ils appellent le Moab Easter Safari, qui est en fait un événement de hors-route extrêmement important aux États-Unis qui se déroule à Moab, au Utah. Quelque chose de particulier parce qu'on présente toujours des véhicules concept assez particuliers du côté de Jeep. On ne fait pas exception cette année. La différence, bien, c'est qu'on se sert du Gladiator, un véhicule qui est extrêmement populaire. On vous en a parlé la semaine passée et j'ai eu depuis des dizaines de questions. Bon, j'en ai parlé sur plusieurs plateformes, là, mais j'ai eu des dizaines de questions sur ce véhicule-là. Les gens se demandent si ça vaut la peine du Gladiator. Je vous dis oui. Je l'ai répété la semaine dernière. Mais là, on arrive vraiment avec des versions un peu plus flyées. Il y a 6 concepts, en fait, qui existent. Gladiator Way Out, qui est une version camping du gros Gladiator. Il y en a d'autres. Il y a le J6 qui est là, qui est aussi... il y a le... Attendez. Mon préféré, c'est le M715. Le M715, en fait, c'est une version un peu militaire, mais 2 portes du Gladiator. C'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on voit pas mal. C'est assez particulier avec des réservoirs d'essence supplémentaires et tout. C'est assez unique. Le J6, je vous en ai parlé, c'est aussi une version 2 portes. Mais ça, on est vraiment près de la réalité. En fait, c'est une version 2 portes avec un pneu de rechange directement dans la boîte. Un peu ce qu'on a fait avec le Colorado ZR2, par exemple. Et vraiment, il est très joli, très mignon. Il y a aussi la version Scrambler. Scrambler, on le sait, ça a déjà existé au cours des années 80. Peinture blanche, orangée, quelque chose qui rappelle vraiment très années 80. Un véhicule avec des bonnes capacités, une bonne structure de charge aussi, parce qu'on a mis des supports dans la boîte, donc ça vaut vraiment le coup d'œil. Il y en a 2 autres, le Flatbill et le Gravity. Ce sont des véhicules qui sont faits, entre autres, le Flatbill, c'est fait pour les gens qui aiment le motocross. Donc, c'est une version vraiment hors-route avec 2 motocross dans la boîte et le support pour les retenir. Et, une entrée d'air surdimensionnée sur le devant. Alors que le Gravity, c'est vraiment le roi du hors-route plein air. C'est-à-dire que c'est vraiment fait pour... Tout a été pensé pour... amener l'équipement pour de l'escalade. On a même placé une boîte, des accessoires particuliers dans la boîte pour amener l'équipement d'escalade. Et on a mis les amortisseurs Fox là, qui servent à supporter tout ça. Et il y a les portes en tubulure Mopar qu'on a vu sur un autre système quand je suis allé à la présentation du Gladiator. Et honnêtement, c'est vraiment magnifique. Moi, j'ai adoré les portes de Mopar en tubulure. C'est assez unique, assez particulier. Mais vraiment, ça vaut la peine d'être vu. Alors, je vous invite à fouiller. C'est facile de trouver des photos des 6 différents prototypes Jeep du Moab Safari, Easter Safari. Chaque année, c'est ça. Ce que ça veut dire, cependant, c'est qu'on pourrait peut-être voir apparaître un Jeep Gladiator 2 portes, mais il n'est pas question jamais, nulle part, dans aucun cas, de moteur surpuissant de Hellcat, comme on a vu, par exemple, sur les autres versions. Alors, il n'en est pas question pour le moment. Dans la série des autres nouveautés, mais toujours concernant les camionnettes, le Silverado. Silverado, en fait, GM nous a présenté une nouveauté au milieu de semaine. C'est qu'on va maintenant utiliser des matériaux composites pour la boîte. En fait, c'est une espèce de boîte et de haillon en fibre de carbone. Évidemment, c'est une option qui va être livrable à compter de l'an prochain. C'est une boîte qui est plus solide, évidemment, mais qui, surtout... On parle de 25% de réduction de masse, donc de 60 livres. Évidemment, ça permet de gagner d'autant ou presque en termes de capacité de charge. On dit que c'est plus résistant, que c'est plus solide, qu'évidemment, ça ne rouille pas, ça ne se poque pas non plus. Mais c'est évidemment juste à l'intérieur de la boîte. Là. On ne sait toujours pas à quel prix sera fourni ce petit bijou de boîte intérieure. Par contre, bien entendu, c'est une option, on vous le rappelle, et une option qui vraisemblablement ne sera pas donnée, même si on n'a toujours pas parlé du prix. D'autres petites nouvelles intéressantes, entre autres, une question qui va intéresser les amateurs de Tesla. On sait que Tesla, c'est une compagnie là, aux multiples aventures. On en parle souvent, en bien ou en mal, mais on en parle. C'est définitivement une compagnie qui a fait bouger les choses. Est-ce que la compagnie va bien? On ne sait pas trop. On sait que financièrement, ce n'est pas facile. Ils ont finalement décidé de ne pas agrandir leur Gigafactory au Nevada parce que la demande n'est pas là pour les batteries et qu'ils n'ont pas les moyens de l'agrandir. On sait qu'il y a toutes sortes de problèmes avec la Model 3. Il suffit de regarder en fait les blogs de propriétaires pour s'en rendre compte. Mais ceci étant dit, c'est pas l'objectif. C'est plutôt en fait dans un autre ordre d'idée. C'est-à-dire que Tesla va avoir un coup de main un peu étrange de la part de FCA, de Fiat Chrysler Automobile. Pourquoi? Parce que ils l'ont déjà fait aux États-Unis et ils le refont cette année. Je vous rappelle qu'il y a les lois relatives aux émissions de CO2. Et il faut acheter ce qu'on appelle des espèces de crédits carbone. Donc chaque compagnie doit avoir un minimum de crédit carbone dans sa possession. Or, évidemment, ce qui se passe, c'est que Tesla, ne faisant que des véhicules électriques, ils ont une tonne de crédit carbone. FCA, ne faisant pas de véhicules électriques, évidemment, vont devoir payer des amendes extrêmement élevées au gouvernement. Donc, pour éviter ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent les crédits carbone en surplus de Tesla, ce qui va donc leur permettre de rencontrer les normes, mais qui va permettre aussi à Tesla d'avoir des liquidités vraiment supplémentaires. On ne sait pas exactement de combien. On parle de centaines de millions d'euros qui pourraient aider Tesla, bien entendu, vous l'aurez compris. Et c'est un peu particulier parce que c'est un peu comme si FCA s'achetait le droit de polluer. Évidemment, c'est une perspective qui est temporaire, ça n'existe qu'un an, parce que c'est comme permis par la loi, mais pour une seule année. Donc, on verra ce que ça va donner. On sait que ça s'est fait aux États-Unis, on sait que c'est en train de se faire en Europe. Donc, je trouve ça assez unique comme principe, mais bon, il semble que ce soit tout à fait correct et que ce soit dans les normes. Alors, bref, FCA va donner un coup de main à Tesla pour un an, ce qui va permettre à Tesla de compléter, j'imagine, ses démarches et compléter l'expansion de son réseau en Europe un peu partout. On rappelle que Tesla aussi a fait des modifications, et là, j'essaye pas de suivre parce que ça devient compliqué, mais ils ont fait des modifications à leur offre. Il y a certains modèles qui ne sont plus disponibles, des versions de base, long range, en tout cas. Bref, il y a toutes sortes de changements qui sont faits. Évidemment, si vous êtes un amateur de Tesla, je vous invite à suivre la chose de façon très précise. Mais vous dire que Tesla, donc, devrait recevoir un petit coup de main un peu par la bande de FCA, mais va quand même avoir cet argent-là, donc c'est intéressant. Enfin, une dernière petite nouvelle avant d'aller à la pause, Volkswagen USA qui a présenté un concept. Écoutez, je vous en parle parce que je le trouve juste beau. On a souvent reproché au Volkswagen Atlas d'être un peu ordinaire, d'être un peu moins spectaculaire que les autres, mais là, on a fait un Volkswagen Atlas qui s'appelle Basecamp Concept, donc évidemment un concept du camp de base. Vous aurez compris que c'est prévu pour de l'endurance, que c'est prévu pour du plein air. On a utilisé toutes sortes d'éléments, entre autres, bon, évidemment, un ensemble de carrosseries vraiment particulier, des roues qui sont uniques, des pneus tout-terrain. On a bien sûr des roof racks, là, des toits pour retenir, entre autres, des vélos. On inclut même une lumière LED en haut. Une lumière à Dell, devrais-je dire, excusez-moi. Bien sûr, le véhicule arrive avec le 3.6 VR6 de 276 chevaux, 8 vitesses, 4Motion, bien sûr, donc le rouage intégral de Volkswagen. Bref, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est vraiment, vraiment assez particulier, qui est très joli. C'est un prototype pour le moment. On ne sait pas s'il sera commercialisé. On sait cependant que ces pièces-là, ce sont des pièces que vous pouvez vous acheter. Donc, si vous avez envie de transformer votre véhicule Atlas en un Basecamp concept, vous pouvez le faire. Mais bien entendu, là, ce sera à vos risques, périls et surtout à votre budget. Alors voilà, on va faire une petite pause dans cette émission, en fait la seule pour le moment, et on vous revient immédiatement après la pause. Je vous reviens immédiatement après la pause parce que je vous rappelle que je suis tout seul, bon, à part mon chien que vous entendez en fond. Je suis tout seul, Luc n'est pas là cette semaine, on le salue quand même, Luc. Et on revient après la pause, en fait je vous reviens après la pause avec les essais du Toyota Tacoma TRD Pro et du Subaru Forester 2019. Alors voilà, me voici de retour, Marc Bouchard au micro de Ça roule, le micro que j'occupe tout seul aujourd'hui puisque Luc, malheureusement, se consacre à sa famille. Fiston ne se sentait pas bien cette semaine. Je pense qu'il est important de souligner que Luc travaille quand même très, très fort pour cette émission. C'est lui qui va faire le montage, c'est lui qui va assurer la mise en ligne. Bref, je pense que Luc mérite quand même nos encouragements et quelques pensées en espérant que son fils se porte mieux et que Luc aura un peu de temps pour se reposer. Puisque ça fait évidemment des semaines extrêmement occupées. Vous savez que Luc n'a pas été chanceux récemment. Là. Il y a eu un dégât d'eau dans le sous-sol, fiston qui ne va pas bien. On envoie nos meilleures pensées à Luc, bien entendu, qui est avec nous en pensée et qui va écouter tout ça, parce que c'est lui qui va faire le montage et la mise en ligne. Tel que promis, on va vous parler de deux véhicules cette semaine, deux véhicules complètement différents. Deux véhicules que j'étais content d'essayer parce qu'on en a parlé pas mal, mais que je n'avais pas eu l'occasion depuis fort longtemps. Le premier, c'est le Toyota Tacoma TRD Pro. Le TRD Pro, c'est le véhicule hors route de la famille. C'est celui que l'on avait essayé l'année dernière dans un contexte ontarien où on avait pu l'amener hors route un peu. C'est un véhicule qui, ma foi, se défend plutôt bien dans son cadre. Évidemment, c'est un des rivaux, des principaux rivaux du Jeep Gladiator que j'ai eu l'occasion d'essayer la semaine dernière. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de faire quelques comparaisons. Bien sûr, ce ne sont pas des véhicules qui ont exactement la même mission. Il faut savoir que déjà, le Jeep Gladiator, c'est un véhicule qui est totalement hors route, alors que le Toyota Tacoma, c'est d'abord une camionnette à laquelle on a greffé des capacités hors route. Donc, évidemment, la mission même d'origine n'est pas exactement la même. Ce que ça fait aussi, c'est qu'on se retrouve avec un véhicule qui est peut-être un peu moins adapté à toutes sortes de choses. Entre autres, le Toyota Tacoma, ce qui m'a impressionné, c'est sa simplicité. Quand on embarque à bord, d'abord, la position de conduite est un peu particulière. Le plancher est assez élevé, le toit plutôt bas. Je ne suis pas très grand, il fallait quand même que je me glisse à l'intérieur en me faufilant la tête, ce qui n'était pas si simple, je dois vous le dire. Et une fois rendu là, par contre, on est assis. On a l'impression d'avoir un peu les jambes relevées, presque couché dans une position sportive. Évidemment, pas autant que ça, vous l'aurez compris, mais quand même, il y a cette position-là. Au départ, c'est un petit peu déstabilisant, mais on s'y fait rapidement. Et honnêtement, je me suis beaucoup amusé à son volant. L'habitacle est aussi beaucoup, beaucoup plus simple. Même s'il y a tout ce qu'il faut en termes de confort, le système multimédia est correct sans être exceptionnel. C'est un véhicule qui, quand même, se comporte bien. C'est un véhicule qui est peut-être un peu moins tourné vers la famille et vers une occupation du passager, je vous dirais. Tu sais, quand on compare, je vous répète que je le compare toujours au Jeep Gladiator. Jeep Gladiator, ben, on a calqué ce qu'on a fait sur le Wrangler, où on a vraiment misé sur un cockpit beaucoup, beaucoup plus raffiné. C'était le choix, on voulait l'avoir comme ça. Maintenant, ben, chez Toyota, on a fait un choix un peu différent. Il est plus léger dans sa liste d'équipements de série. En fait, il y a les mêmes équipements, mais on les ressent moins, on les voit moins, on a moins l'impression que c'est exubérant. C'est par contre doté de la qualité d'assemblage que l'on connaît à Toyota. C'est un véhicule qui, pour le moment, n'a pas manifesté de problème particulier, même si on sait qu'il va être complètement remanié au cours des prochains mois. On a déjà confirmé qu'on garderait même la même plateforme, ce qui est quand même pas vilain. C'est au-delà de ça, c'est vraiment un véhicule qui est faite vraiment avec une mission unique. Le véhicule TRD Pro que j'avais profitait de la couleur que l'on appelle cette année Voodoo Blue. C'est un bleu royal. Si vous n'êtes pas allé sur ma page Facebook, allez-y, allez voir, il y a des photos. C'est assez... Ben d'ailleurs, on va en mettre une sur sa roue de radio. Là. C'est assez incroyable comment cette couleur-là est flamboyante. J'ai adoré ça. Faut dire que chez Toyota... on a présenté des couleurs avec le TRD Pro qui sont vraiment incroyables. Je vous parle du Voodoo Blue. L'année passée, vous vous rappellerez qu'on avait une espèce de gris béton un peu industriel qui était magnifique, que moi j'adorais aussi et qui vraiment faisait un excellent travail et qui rendait totalement justice au véhicule. Alors honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette espèce d'audace-là que Toyota prend sur la couleur. Sur le design aussi, quand même, il faut avouer que le Toyota TRD Pro, avec son espèce d'entrée d'air sur le devant, ses ailes protégées et son snorkel. Bon, le snorkel, c'est une espèce de périscope qu'on a greffé sur le côté droit du véhicule, qui est l'entrée d'air surélevée, en fait. Littéralement, par-dessus pare-brise. L'idée, c'est bien sûr, ça donne un look, excusez l'expression, mais ça donne un look badass. Ça donne vraiment un look incroyable. Et ça permet de traverser des flaques d'eau, par exemple, d'une plus grande profondeur sans que l'eau ne se précipite à l'intérieur du compartiment moteur. Alors, c'est vraiment bien pensé pour ça. C'est parce que vraiment, on mise énormément sur la version, je dirais la version hors-route là, TRD Pro. On a d'ailleurs placé en dessous une plaque de protection améliorée en 2019 là, pour s'assurer que tout était correct. Pour le reste, ça demeure un véhicule que l'on connaît bien, V6 3.5 litres, 278 chevaux, 265 livres-pieds de couple avec une automatique 6 rapports, un rouage 4x4, bien sûr, que l'on peut mettre en mode en différentes gammes, haute ou gamme basse, selon les nécessités. Bien sûr, un système intelligent de commande électronique du papillon des gaz qui permet d'avoir une meilleure consommation d'essence. Refroidisseur d'huile, une batterie grande capacité. Bien sûr, on essaie de s'organiser pour que ce véhicule-là puisse être capable de faire absolument tout ce qu'il doit faire en termes de hors-route. Différentiel à glissement limité, bien entendu. Il y a des amortisseurs Bilstein là-dessus. On est capable de remorquer, dit-on, de mettre en charge 992 livres et on peut remorquer jusqu'à 6000 livres ou à peu près avec. Donc, c'est quand même un véhicule qui est vraiment fait pour être capable de faire du hors-route. Bon, différentiel arrière que l'on peut bloquer aussi par le conducteur. Donc, ça nous permet de passer pas mal n'importe où. Bien sûr, une garde au sol surélevée aussi qui nous permet de franchir les obstacles. Plus tous les équipements, en fait, qui viennent quand même ajouter un peu de confort à l'intérieur. Tu sais, on a quand même des sièges chauffants, on a quand même un détecteur d'angle mort, on a quand même l'avertisseur de sortie de voie. On a tous ces éléments-là qui font quand même que le TRD n'est pas totalement dénudé, mais on le sent moins. Quand on est assis à l'intérieur, c'est définitivement moins exubérant et c'est vraiment moins, je dirais, pas moins confortable, mais on donne la sensation que ça l'est moins. Et ça, c'est particulier. Bon, bien sûr, on est monté sur des pneus 16 pouces en alliage d'aluminium, fait pour la route. Tout est fait vraiment là, pour que ce véhicule-là soit en mesure de franchir à peu près toutes les étapes. Ça va bien. Évidemment, c'est un peu sautillant. Les suspensions, on s'en rend compte, sont plus à l'aise quand on est dans les sentiers que n'importe où ailleurs. En passant, je vous ai dit que la capacité de remorquage était 6000 livres. C'est dans les faits 2900 kg, soit 6393 livres exactement. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, bon, quand on est sur la route, il y a un petit sautillement. Un sautillement qui est propre, en général, aux camionnettes pick-up, mais celle-là en a un petit peu plus parce que, vraiment, on a bien sûr donné un débattement supplémentaire aux suspensions, histoire de leur permettre de mieux absorber les chocs en route. Et honnêtement, ça, il le fait très bien. Direction qui est correcte, qui est précise. J'ai réussi à finalement me trouver un petit sentier un peu plus accidenté, je dirais, qui n'est pas du hors-route de très haut niveau, mais qui était quand même capable, dans la neige et avec un peu de boue et quelques trous, de mettre à l'épreuve les capacités du véhicule. Et honnêtement, il se comporte très, très bien. J'ai beaucoup aimé le Tacoma. C'est un véhicule qui plaît énormément. C'est un véhicule qui se vend très bien, qui fait partie, en fait, des véhicules les plus vendus de sa catégorie. Le problème, en fait, c'est le prix. On parle d'un véhicule qui est au départ de 48 600 ou à peu près, mais bien sûr, avec les différentes options, le mien valait à peu près 56 000. C'est beaucoup de sous. Je me suis un peu plaint du prix du Gladiator la semaine dernière. Vous aurez compris que je ne pouvais pas faire autrement avec le Tacoma TRD Pro, mais je vous le répète, il est magnifique, il est bleu. Celui que j'avais, il était superbe et honnêtement, un très, 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 très beau véhicule. Mon deuxième essai de la semaine, mais là, c'est un véhicule qui est peut-être un peu plus tranquille, un véhicule avec lequel on fait un peu moins d'excès, mais quand même, un véhicule qui est extrêmement populaire et qui a valu à son constructeur une excellente réputation, c'est le Subaru Forester. Subaru Forester qui a été complètement redessiné pour 2019, nouvelle plateforme qui lui donne vraiment plus d'espace intérieur, il est plus spacieux, il est plus long, il est plus gros. On le voit, on le sent. Il n'a pas cependant changé tant que ça du point de vue physique. C'est-à-dire que chez Subaru, on demeure assez conservateur au niveau du design. Moi, j'avais la version sport. Version sport qui me fait bien faire rire parce que, en fait, c'est qu'on se retrouve avec des petites lignes de couleurs un peu partout, là. C'est pas très, très sportif, je vous le dis. Mais malgré tout, c'est un véhicule qui, bon, qui paraît bien. Si vous aimez l'ancien Forester, vous ne serez absolument pas dépaysé avec le nouveau. Il est beau, il va bien, il est plus large, il est plus efficace. Il y a aussi un habitacle qui, évidemment, a été redessiné par la même occasion. Habitacle qui comporte un écran central qui est assez facile à manipuler. Bon, avec une ergonomie tout à fait correcte. Il y a, bien sûr, une petite caméra avec caméra de recul. Il y a un affichage devant soi qui nous donne plein d'informations, qui est facile, très ergonomique. Honnêtement, ça, ça va bien. Pourquoi? Parce que faut rappeler que le Forester, même s'il se donne la prétention d'être un utilitaire sport, est aussi, d'abord et avant tout, un véhicule familial. Et de ce point de vue-là, il est très bien réussi. L'espace arrière est intéressant. L'ouverture du coffre avec le hayon électrique, même si j'ai eu un problème, je dois le dire, pendant 2 jours, mon hayon a décidé de refuser de s'ouvrir. Je pensais que c'était un cas unique. Je me suis dit, bon, vous savez, moi, je conduis des voitures que d'autres journalistes ont conduites. Je vous admets que ce ne sont pas tous les journalistes qui sont toujours très, 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 très soigneux avec leur véhicule de presse. Ça arrive, normal, on est là pour les essayer, on les pousse peut-être un peu plus que la moyenne. Alors, je me disais peut-être qu'il y a eu un problème quelque part. Mais en fait, je me suis retrouvé dans une cour de grand magasin pour me rendre compte que la dame au côté de moi, qui avait aussi un Forester nouveau, avait vécu exactement la même situation. Elle a dû se rendre chez son concessionnaire où on lui a expliqué qu'il y avait une espèce de procédure, là, ouvrez-le manuellement, puis faites... Je ne l'ai pas fait. Au bout de 2 jours, le hayon s'est remis à fonctionner normalement, sans difficulté. Alors, je peux vous dire que ma première épicerie, je l'ai faite en mettant tout ça sur le siège arrière parce que je n'étais pas capable d'ouvrir le hayon. Heureusement, là, ça s'est corrigé par la suite. Donc, ça, c'est un problème, mais c'est un petit problème anecdotique. Dans l'ensemble, c'est quand même un véhicule, comme je vous dis, qui offre un hayon qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus facile d'accès, qui s'ouvre et se referme plus rapidement que dans le passé. Donc, ça, c'est intéressant au niveau du véhicule comme tel, au niveau de la capacité familiale du véhicule. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de grande trouvaille, c'est-à-dire qu'on a juste abandonné le moteur turbo. On se retrouve donc avec un véhicule qui a le moteur, toujours moteur à plat, le fameux moteur Boxer, qui est excellent pour le centre de gravité bas et qui permet d'avoir une conduite un peu plus stable, ce qu'on appelle un moteur à cylindre opposé horizontalement, excusez. Vous connaissez ça. Un moteur 4 cylindres, 2.5 litres, 182 chevaux, 176 livres-pieds de couple, avec une CVT qui n'est pas toujours tout à fait à la hauteur, je dois vous le dire. Occasionnellement, il m'a un peu fait rager, mais je suis conscient que je ne suis pas nécessairement le conducteur typique de ce genre de véhicule-là et que, honnêtement, la plupart des gens ne s'en rendront donc tout simplement pas compte. Je l'ai fait essayer à mon épouse, ben oui, j'ai fait ça, et elle-même n'a pas vraiment frémi là, quant à la nature de la CVT, donc c'est quand même un véhicule qui se comporte bien. Il y a le système SC Drive qu'on peut mettre en mode sport, donc qui permet d'avoir aussi un peu plus de oomph et une transmission qui répond un peu plus rapidement. Ce qui m'a impressionné cependant, c'est la consommation d'essence. Écoutez, Subaru nous annonce 8 litres au 100, j'ai fait 8.2. Honnêtement, ça, c'est un véhicule qui répond tout à fait à la demande, qui est vraiment là, assez particulier de ce point de vue-là. Il y a aussi des caractéristiques, bon, pas sur tous les véhicules, pas sur tous les modèles, vous aurez compris, mais il y a quand même des affaires intéressantes, dont le Driver Focus. Driver Focus, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui permet, à l'aide de caméras, de regarder votre visage et avec la reconnaissance faciale, on va être en mesure de déterminer si vous êtes en train de vous endormir ou pas et va vous aviser de faire une pause le cas échéant. C'est un système qui est assez innovateur que Subaru met de l'avant et honnêtement, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait se démocratiser partout, même si les gens ont des craintes quant à la reconnaissance faciale. Bref, honnêtement, c'est un véhicule c'est une notion de véhicule de sécurité qui est fort intéressante et qui vous permet au contraire d'avoir vraiment plus de sécurité. Donc ça, c'est intéressant. Bien sûr, il y a tout le système EyeSight aussi qui fonctionne avec les caméras avant qui vous permet de voir le changement de voie et tout. Système qui fonctionne une fois sur deux quand il ne fait pas beau parce qu'il est victime. Bon, les caméras sont placées derrière le rétroviseur avant et donc s'ils sont victimes de la pluie battante ou de verglas ou de n'importe quoi, ben, les caméras fonctionnent plus ou moins bien. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un véhicule qui va très, très bien. C'est un véhicule que je n'hésiterai pas à recommander si vous avez envie d'un peu d'espace, si vous avez envie d'un véhicule sécuritaire, si vous avez un véhicule qui est économique aussi en termes de carburant, parce qu'il faut le rappeler, c'est un rouage intégral à prise constante et malgré tout, j'ai fait 8.2 litres au 100. Alors, honnêtement, c'est un bon véhicule. Véhicule, moi, j'avais la version sport qui est à peu près à 35 000 $. Il faut savoir que la version de base est à peu près à 28 000 et qu'on a rajouté cette année une version de luxe, celle avec laquelle il y a Driver Focus. Elle est à près de 40 000 $, 39 500 ou à peu près. Donc, c'est un peu dispendieux, mais honnêtement, c'est un véhicule qui vaut la peine. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à cette émission cette semaine, émission que j'ai faite toute seule, je vous le rappelle. Luc étant absent, mais me donnant quand même un coup de main au niveau du montage. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. On vous invite à nous envoyer vos commentaires, bien sûr, sur la page Facebook de Ça roule radio, sur ma page Facebook personnelle aussi, où j'accepte tous les commentaires et toutes les demandes d'amis. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. Vous pouvez me suivre sur Instagram à Bouchard souligné Marc, sur Twitter Marc souligné Bouchard. Bien sûr, Luc, vous pouvez toujours le joindre sur Twitter à Scalazormo, c'est son nom. Et bien sûr, vous pouvez nous envoyer vos questions à info@saroulradio.com, questions que l'on essaie de répondre le plus rapidement possible. Je sais qu'au cours des derniers mois, il y a eu des gens qui nous ont fait des demandes spéciales de thématiques. Je pense entre autres au fameux Easter Egg, là, les espèces de zut Pâques qu'on a cachées un peu partout dans les différents véhicules. Ne vous en faites pas, on ne vous a pas oublié. On a juste manqué de temps à un moment donné pour tout préparer ça. Donc, ça va venir au cours des prochaines années. On vous rappelle que vous pouvez écouter Ça roule radio, bien sûr, sur le site de Ça roule radio, sur notre page Facebook Ça roule radio. Vous pouvez aussi nous écouter à sportradio.ca, à Radio Média Plus, qui diffuse nos émissions, qui sont deux radios Internet qui valent la peine d'être écoutées. Bien sûr, sur mon site à moi, marcbouchard.ca, où je mets des liens. Et bien sûr, on est disponible sur toutes les plateformes Apple, Google et même sur Spotify. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas écouter Ça roule radio. Là-dessus, on vous souhaite une bonne route. On espère que l'émission vous a plu et qu'on vous retrouvera la semaine prochaine. On salue Luc, on lui dit qu'on pense à lui et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez prudents, bonne semaine.